Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Résonance et bien sûr sur Radio B. Poser l'oreille contre un coquillage, c'est se donner à entendre tout un océan. Le bruit coloré afflue et reflue en vagues interminables enserrées dans l'espace nacré et étroit. Pourtant, c'est un en dehors qu'on perçoit, un espace ouvert. L'oreille porte l'auditeur au loin. L'impression de mer atteste de la tangibilité d'un son prisonnier d'une conque. C'est bien le son de la mer qu'on entend à travers le coquillage. Une telle écoute n'expose pas pour autant un son océanique. Elle révèle au contraire des territoires parsemant l'océan, des territoires en archipel. Le coquillage n'est pas le bord de mer. Il n'est pas le lieu de l'expérience d'une mer authentique, même si l'expérience d'écoute de la mer à travers lui est authentique. Il n'est pas non plus le lieu du mystère, au contraire. Le coquillage ne peut que restituer le bruit de la mer. Cette expérience du bord de mer nous offre de l'inouï. Aujourd'hui, nous voyageons dans l'archipel sonore, les mots et les sons de Jean-François J. Bonnet, ouvrage paru en 2012 aux éditions de l'Éclat, où celui-ci nous propose une véritable pensée de l'écoute, une plongée vers des territoires remarquables ou méconnus. Avant même de prendre corps ou de devenir signal, le sonore, le son, pour être, doit faire trace. Faire trace, nous dit François J. Bonnet, être une trace, c'est déjà pour un son dire un peu plus qu'un son. Radio B, Résonance, Alain Goudard, une émission réalisée et mise en onde par Simon Debord. Résonance sur Radio B, le sonore sonne, l'audible se donne à entendre. Le bruit de la mer, captif du coquillage, n'inquiète pas. Au contraire, il rassure, soulage. Il affirme une permanence, une tranquillité. Là où le son mystérieux des bords de mer ne révèle rien. Un tel son ne s'origine pas lui-même. C'est un son qui n'a pas de lieu ou qui n'a tout simplement pas lieu. Le son, inexplicable, occupe l'espace et s'y dissout sans laisser la trace, mis à part peut-être celle d'où jaillit l'inquiétude, constatant précisément l'absence de traces. Dans les environs de Naples, il existe une croyance qui attribue l'origine des chants populaires à Virgile. Un recueil, écrit de sa main, serait tombé au fond de la mer et s'entend collant l'oreille contre un coquillage que les chants du poète auraient été découverts. Résonance sur Radio B. Le sonore sonne, l'audible se donne à entendre. À travers le coquillage se révèle le caractère double d'une écoute où la fonction sensible se superpose toujours une fonction du langage. Le bruit de la mer et les poèmes de Virgile ont tous deux le même vecteur sensible et la même destination, son et audition. L'oreille, à la mesure d'une telle écoute, s'inquiète, se rassure, tisse des rapports d'intimité avec l'inconnu ou forge un savoir à travers le langage. L'oreille est fragile, elle est sous influence. Résonance sur Radio B, le sonore sonne, l'audible se donne à entendre. Et là, nous venons d'entendre Liquid Air de Meredith Monk. Alors, poursuivons avec Jean-François Gibonnet et il nous dit la chose suivante. Le son, s'il détient déjà une part de mystère, ne le doit pas encore au caractère insaisissable de sa nature vibratoire. Il le doit à son étrange interaction avec le souffle, les choses et les corps. Souffle et voix occupent à ce titre une place privilégiée dans l'espace sacré habité par le son. Être doué de voix, c'est receler en soi-même la preuve d'être animé, c'est détenir une parcelle de souffle créateur et avoir le pouvoir de le manifester. Résonance sur Radio B, le sonore sonne, l'audible se donne à entendre. Et là, nous avons plongé dans la musique tibétaine où nous avons entendu ensemble Tantra tibétain Sangwa Dupa. Alors, si la voix, nous dit Jean-François Gibonnet, est le biais premier qui tisse un lien d'intimité entre le son et celui qui en fait l'expérience, premier jalon posé dans le cheminement du sonore vers l'audible, première étape de la domestication du sonore, elle est également puissance expressive, puissance d'évocation. Les rituels vocaux en sont la plus nette manifestation. Le son, qu'il soit vocalement ou instrumentalement produit, remplit en effet cette fonction de catalyseur, accompagnant le rituel, lui permettant de se développer. Alors écoutons trois pièces musicales nous évoquant cette notion. Résonance sur Radio B, le sonore sonne, l'audible se donne à entendre. Donc, par rapport au rituel, par rapport à cette notion du sacré, nous avons entendu trois sources, trois pièces musicales exprimant cette idée. Tout d'abord, Saluan Yo Dendang, là on est plutôt côté Indonésie, avec le gamelan qui a suivi, et enfin plutôt une pièce donc italienne de cette époque du 15e avec l'ensemble Musica Nova qui nous a proposé donc une pièce intitulée Salve Flos Tutte Gentis, salut aux fleurs du peuple toscan, demoiselle splendeur de la Toscane, hommage mensonger, salut Florence, fleur du peuple toscan, salut, salut aux grandes gloires du sol italien, etc., etc. Voilà pour cette pièce vocale exprimant aussi, ou ces trois pièces exprimant un peu cette notion aussi du rituel, du son et de la musique. Ouïr, entendre, écouter. Pour Pierre Schaeffer, cela prend la forme d'une typologie en quatre modes d'écoute. J'écoute ce qui m'intéresse, j'ouïs à condition de n'être point sourd ce qui se passe de sonore autour de moi, quelles que soient par ailleurs mes activités et mes intérêts. J'entends en fonction de ce qui m'intéresse, de ce que je sais déjà et de ce que je cherche à comprendre. Enfin, je comprends, à l'issue de l'entendre, ce que je cherchais à comprendre, ce pourquoi j'écoutais. L'écoute n'est pas neutre, apathique. Elle est toujours volonté d'écoute, désir d'écoute. Le son, on le sait, est toujours présent. La distinction établie entre sonore et audible se loge précisément dans l'articulation, dans la constitution même de cette présence. L'audible est le son formalisé par l'écoute, le résultat d'une visée, d'un vœu de l'écoute. L'audible existe. Le sonore, lui, demeure dans les limbes. Il est ce qui parvient à l'oreille, mais n'y pénètre pas, ne s'y imprime pas. Il est l'inouï. Résonance sur Radio B, le sonore sonne, l'audible se donne à entendre. Et pour cela, là, nous avons cherché, par rapport à l'inouï, par rapport encore à nous amener à un autre type d'écoute, une pièce du compositeur américain John Cage, interprétée par le Hives Ensemble. Et il s'agit de Five. Alors, toujours en compagnie de François Gibonnet, nous continuons cette réflexion sur l'écoute, sur le son. Et celui-ci nous dit encore « Le son toujours nous parle ». L'écoute réduite, pure, accomplie, n'existe pas. Elle vise la voix du son, et non pas le son lui-même. Le seul son qui puisse « parler », entre guillemets, c'est le son visé par l'écoute. C'est l'écoute qui fait le parler. Mais faire parler équivaut ici à prendre la parole. En fin de compte, c'est l'écoute elle-même qui instaure le son dans une puissance de discours. L'écoute parle, écrit Barthes, Roland Barthes. Et peut-être finalement en est-il ainsi.
Qu'il fait bon vivre. Slouchet. Jasmina, tu, je recommencerai tout.
Yar nazani, a puff of wind sets them free.
Todres, rat nu.
got lost. Amore in the night. Yeah. Oh, sans sauce, mardi escala rosa. Voi gay, voi angel, my druge. In the morning, after the torch, Irian Hayuri. Off as they are. Allegro.
Résonance sur Radio B, le sonore sonne, l'audible se donne à entendre. Et là, nous avons poursuivi justement comment cette écoute nous parle à travers d'une pièce à nouveau de John Cage, cette fois-ci interprétée par le Theater of Voices sous la direction de Paul Hiller. Et c'était un extrait de Songbooks Solo. Alors, le son qui apparaît est toujours produit, généré par un événement vibratoire. La reproduction électroacoustique du son ne le reproduit justement pas. Elle le représente en produisant un son à partir de son empreinte, un nouveau son qui lui est identique à l'inframince près, donc encore une fois différent. La reproduction du son atteste et manifeste simplement la nature composite de ce dernier, faite d'événements vibratoires, de traces perceptives ou symboliques et d'une audition qui l'actualise. La distinction son, musical, bruit, fondée sur une tradition établissant un son comme bruit à partir de critères d'absence de hauteur identifiable ou de niveau de pression acoustique excessif, se retrouve alors brouillé. Pourtant, la musique et le son musical demeurent. C'est le bruit qui est intégré au musical, et non pas le musical qui se désintègre en bruit. Eric Satie, le compositeur Eric Satie, amorce les principes de la composition non intentionnelle qu'on retrouvera plus tard chez John Cage et que nous avons entendu dans les œuvres précédentes. S'il entame la figure du compositeur génie, notamment dans sa musique d'ameublement ou encore avec ses vexations, Eric Satie n'en attaque pas moins le rigorisme de la systémique musicale. Comme l'écrit d'ailleurs Dietrich Diederichsen, il y a chez Satie, dit-il, une mise en jeu du timbre comme métasigne autonome, en partie dirigée contre la construction compositionnelle. Fin de citation. Écoutons Eric Satie, notamment dans la Gnossienne numéro 1, pour piano forte, interprétée ici par Ilaria Baldaccini. Thank you. Résonance sur Radio B, le sonore sonne, l'audible se donne à entendre. Il faut comprendre, nous dit encore François Gibonnet, que la musique est passée graduellement d'éléments constitués à éléments constituants, et que c'est en cela qu'elle procède désormais par tautologie. Un son n'est musical que parce qu'il s'intègre à une structure musicale. Un ensemble de sons, à son tour, peut être annexé par la musique et ainsi être qualifié de musique parce qu'on y trouve en lui du musical, l'essence du musical restant elle-même opaque. La musique est un processus d'intégration d'éléments sonores activant à travers l'écoute musicale une fonction organisatrice. Ainsi, si l'intention musicale, dès lors de la production du son, n'est pas claire ou explicite, elle peut très bien être réinvestie a posteriori par l'écoute. C'est un tel réinvestissement de l'intention musicale dans l'écoute qui permet à l'homme d'évoquer le chant des oiseaux. Alors, écoutons, si vous le voulez bien, un extrait justement de la Touranegoulila symphonie du compositeur Olivier Messiaen, une œuvre qui était composée entre 1946 et 1948 et qui a été créée le 2 décembre 1949 à Boston, aux USA. Dans cet extrait, la partie numéro 6 de cette œuvre, intitulée « Jardin du sommeil d'amour », le piano solo fait entendre des chants d'oiseaux, celui d'un rossignol, d'un merle, d'une fauvette des jardins, mais stylisé, idéalisé. Dans la Touranegoulila symphonie, elle est un chant d'amour, un hymne à la joie. La joie, telle que peut le concevoir celui qui l'a entrevue qu'au milieu du malheur, c'est-à-dire une joie surhumaine, débordante, aveuglante et démesurée. L'amour y est présenté sous le même aspect. C'est l'amour fatal, irrésistible, qui transcende tout, qui supprime tout, hors de lui tel qu'il est, symbolisé par le filtre de Tristan et Isolde. Ces mots, c'est ceux aussi de Olivier Messiaen, donnant quelques indications sur cet extrait de cette symphonie que nous allons découvrir maintenant. Résonance sur Radio B, le sonore sonne, l'audible se donne à entendre. Nous avons cheminé tout au long de cette émission avec François Gibonnet, sa pensée, ses recherches et ses écrits, et notamment son ouvrage « Les mots et les sons » paru aux éditions L'Éclat. François Gibonnet nous ouvre ainsi sur des archipels sonores inouïs, éphémères, riches de nouvelles expériences d'écoute, propres à éduquer nos oreilles et à mieux entendre l'imperceptible. Jean-François Gibonnet est compositeur et théoricien du groupe de recherche musicale de l'Institut National de l'Audiovisuel, INA-GRM. J'espère que cette plongée aux côtés de François Gibonnet dans le sonore, dans l'inouï du sonore, dans ce qu'il peut être et dans cette manière de revisiter l'écoute, que vous aurez vous aussi envie, chers auditeurs et auditrices, de vous inviter, bien sûr, mais en même temps de vous aventurer, peut-être, à réécouter, à plonger dans l'univers du son, de l'infrason, en tout cas développer une autre écoute. Alors bien sûr, cette émission arrivant à son terme, vous pourrez la retrouver en la podcastant sur le site de Résonance Contemporaine, www.résonancecontemporaine.org, ou bien sûr sur le site de Radio B, www.radio-b.fr. Vous savez que vous pouvez la podcaster, la réécouter justement en vous rendant sur ces deux liens. En tout cas, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir bien voulu nous accueillir chez vous. C'est un plaisir de vous retrouver à chaque fois. Passez une bonne journée sur Radio B et à bientôt.